Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 2 avril, nous étions invités à l'ouverture pour sa saison 2025 du musée Cévenol au Vigan, à l'occasion notamment du démarrage de l'exposition « Trajectoires gitanes dans l'agriculture », une exposition qui s'intéresse et qui montre quelques-unes des trajectoires gitanes et voyageuses dans les filières agroalimentaires en Occitanie et plus particulièrement dans l'Hérault. Avant de se plonger dans l'exposition avec la chercheuse qui en est l'auteur Gaëlle Aloiseau, nous avons été accueillis par Estelle Bougette, la directrice du musée Cévenol, qui a pris le temps de nous parler de l'histoire et de l'actualité de ce musée singulier.
Bonjour, bienvenue, vous êtes au musée Cévenol, au Vigan. Je suis contente de recevoir Radio Escapade pour présenter notre nouvelle saison 2025.
La saison vient juste de commencer, le musée est ouvert pour quelques mois du coup ?
Oui, ça y est, aujourd'hui on est le 2 avril et on est ouvert jusqu'à la fin des vacances scolaires de la Toussaint, donc ça doit faire le 2 novembre.
Donc le musée Cévenol, c'est un musée qui a une histoire assez riche. On en a eu quelques échos lors du bistrot des ethnologues à Ganges au Théâtre Albared, où justement la présence de nombreux anthropologues sur le terrain depuis longtemps a été évoquée. Et ce musée, il a aussi une histoire liée un petit peu, qui fait partie de tout ça.
Oui, effectivement, il a été créé par Odette Tessier-Ducrot, qui fait partie du club des ethnologues dont on a parlé hier au bistrot des ethnologues. Donc c'était une adjointe de Georges-Henri Rivière, qui est le créateur du musée de l'Homme à Paris.
Et donc c'est un musée anthropologique dans cette filiation-là. Je ne sais pas même pas si c'est vraiment un label qui existe, mais est-ce qu'on peut l'affilier à ce type de musée ?
Alors en quelque sorte oui, mais on parle plutôt de musée d'ethnologie. Et pour agrandir, on parle même de musée de société. C'est le nouveau nom des musées d'art et tradition populaire pour ceux qui connaissaient l'appellation. Alors on a les collections permanentes qui sont sur trois niveaux, qui expliquent la vie des habitants d'Écosse et des Cévennes autrefois. Et on accueille chaque année des expositions temporaires. Donc la première pour le mois d'avril, c'est Trajectoire gitane dans l'agriculture, qui est une exposition clé en main, qui a été créée par Gaëlle Aloiseau, entre autres, qui est anthropologue à l'INRAE de Montpellier. Et elle a eu comme collaborateur des chercheurs au CNRS pour étudier donc, les trajectoires gitanes dans l'agriculture, dans le département de l'Hérault principalement.
Est-ce que c'est souvent qu'il y a ce type d'expos qui viennent, qui sont liés à la recherche, que vous accueillez ici, ou ça peut être d'autres types aussi artistiques ou autres ?
Oui, on accueille tout type d'expositions. Dans mon souvenir, c'est une première pour ce type d'exposition. Et on aime bien parler justement de la vie des habitants, de la vie du territoire. Et la rencontre avec Gaëlla a été formidable pour nous et on trouve que c'est une belle ouverture sur justement le territoire et le peuple itinérant et nomade.
Et alors comment on fait quand on travaille dans un musée comme celui-ci justement pour amener de la matière, pour le faire évoluer ?
Alors il y a plusieurs possibilités. Soit on a des demandes, c'est ce qu'a fait donc Gaëlla qui nous a contacté l'année dernière pour nous proposer son projet. Donc l'année dernière, on n'a pas pu l'accueillir parce qu'on avait déjà une programmation. Donc comme le sujet était intéressant, on a trouvé l'opportunité de le présenter cette année. Donc on a parfois des habitants qui nous proposent des expositions, essentiellement de peinture. Donc là, nous, depuis quelques années, on a recentré les expositions sur le territoire d'Écosse et des Cévennes. Et depuis peu, on a redéfini le territoire du musée Cévenol, qui correspond au territoire des trois Comcom, donc celle de Ganges-Sumène, celle de Val-des-Goiles et bien sûr celle du Pays Viganais. Donc on essaye d'avoir des sujets qui ont trait donc à ce territoire-là, mais on aime bien aussi aller au-delà de ces frontières pour parler vraiment des habitants.
Et sur le fond propre et donc l'objet initial de ce musée, donc documenter la vie des Cévennes d'avant et d'aujourd'hui peut-être aussi. Comment est-ce que justement ce fonds, est-ce qu'il est fixe, il ne bouge plus ou est-ce que justement il évolue un peu ?
Alors les collections permanentes, de par leur nom, elles ne bougent pas. Cependant, on a le projet de faire évoluer le musée. pour le faire rentrer un petit peu dans la modernité. Mais je pense que ce sera l'occasion d'une autre interview un peu plus tard parce qu'il y aurait beaucoup à dire.
Ensuite, en juin, nous aurons une autre expo.
Oui, alors 2025, on va dire que c'est l'année de la botanique. On va rester dans la même thématique avec une exposition qui s'appelle « Les plantes qui soignent, botanique et médecine traditionnelle dans l'Écosse et les Cévennes ». Donc c'est une exposition créée par le musée pour le coup. Et donc elle va durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais peut-être que ce sera l'occasion de se re-rencontrer pour en parler, ouais, avec grand plaisir.
Gaëlle Loiseau, est-ce qu'on peut justement évoquer l'exposition qui démarre aujourd'hui et qui aura, je crois, en plus quelques dates et quelques petits événements qui vont se passer autour? Déjà, juste pour expliciter le titre, Trajectoire gitane dans l'agriculture, si je le dis bien, c'est ça? Qu'est-ce qu'on entend là-dedans déjà?
On entend d'essayer de comprendre quelle a été la place et le rôle de familles gitanes et voyageuses, donc de familles effectivement qui avaient plutôt un mode de vie itinérant, mais pas seulement, dans les filières agroalimentaires. Donc, c'est simplement voir à quels endroits elles étaient. Ça peut être par exemple la revente de produits issus de l'agriculture, comme par exemple les fruits et légumes. Ça peut être par exemple le commerce des chevaux, qui a été une activité hyper importante pour toutes ces familles et qui les a conduits, pour certaines familles, à développer des activités dans la boucherie chevaline, par exemple, puisque ces marchands de chevaux, ils avaient une place particulière aussi dans le commerce des équidés, dans le sens où souvent, ils achetaient des chevaux qui sortaient du circuit de la vente. Et ils sortaient soit parce qu'ils étaient jugés inaptes, effectuer réellement le travail dans l'agriculture, bien souvent, pour les chevaux. Donc, soit ils pouvaient les rééduquer. Donc ça, c'est une compétence très importante chez les familles gitanes et voyageuses, ce qu'on appelle soit la rééducation, ou même quand ils achetaient aussi des chevaux qui n'avaient jamais touché l'homme, ce qu'on appelle le débourrage. C'était vraiment spécialisé là-dedans. Et une autre partie, c'était donc ces chevaux qui étaient soit sortis du circuit de la vente par inaptitude ou parce qu'ils étaient trop vieux, ils étaient peu chers. Donc, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir comment, dans les différentes filières, y compris pour les fruits et légumes, parce que pour les fruits et légumes, en fait, ce qu'on voit dans l'exposition, c'est qu'ils récupèrent les invendus. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, en fait, ces familles, elles ont joué un rôle particulier qui est quelque part un peu la prolongation du vivant, de comment on peut travailler le vivant jusqu'au bout. Et il y avait effectivement aussi des familles qui récupéraient des vieux chevaux, finalement, qui étaient destinés à la boucherie. Donc, ils étaient à cette interface-là entre les abattoirs, les maquignons, les abattoirs, ceux qu'on appelait les chevillards aussi. Et certaines de ces familles ont pu développer des activités dans la boucherie, par exemple. C'est un exemple. Il y a aussi beaucoup d'activités, et ça a été mentionné d'ailleurs par des ethnologues ici, dans les Cévennes, d'activités de cueillette. Donc ça, c'est quelque chose qu'on documente aussi dans l'exposition, qui est très intéressant. Et d'ailleurs, on va en faire mention plus particulièrement le 6 avril, dimanche 6 avril, dans l'après-midi à 14h. On va se réunir ici autour du musée pour faire une balade autour des cueillettes sauvages, autour des héritages qui ont été transmis par ces familles à deux personnes que j'ai rencontrées sur le terrain. Donc tout d'abord, Cynthia Patrac, qui vit dans l'Aveyron. Et j'ai rencontré également son père. Et en fait, dans cette famille, ils ont vraiment des savoirs qu'ils cultivent encore aujourd'hui, des savoirs autour des plantes. Comment se soigner avec les plantes, quels usages on peut avoir des plantes, et qu'ils mettent en pratique encore aujourd'hui. Et une autre personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Amandine Cellini, qui a monté une activité de pépiniériste ici, les pépinières gourmandes à Aulas, qui en fait est issue d'une famille de manouches circassiens. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en discutant avec Amandine, justement, Amandine m'a rencontrée grâce à l'exposition, quand on l'avait montrée l'année dernière à Ganges. Et cette exposition, elle est géniale pour ça, c'est-à-dire qu'elle nous conduit aussi à collecter des paroles qui sinon n'émergeraient pas, et des témoignages nouveaux. C'est vraiment un support de collectage aussi, cette exposition.
C'est une espèce de boule de neige qui grossit pas.
Complètement, complètement. Alors là, pour le coup, j'aurais plein d'histoires à raconter autour de cette exposition, de comment ça fait émerger des paroles soit très positives, des souvenirs qui finalement restaient confinés dans l'espace de la communauté, ou d'autres, des choses plus douloureuses, comme du racisme, etc. Enfin, voilà, j'ai plusieurs exemples, mais ça produit toujours des effets. Et ça, c'est vraiment chouette, c'est très vivant, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une exposition, en tout cas, celle-ci, elle est très vivante, voilà.
Alors, cette expo, si on peut rappeler les dates, donc ça commence là, le 2 avril, on est là en prévisualisation de l'expo.
Tout à fait, ça commence aujourd'hui. Je fais une petite visite cet après-midi, mais il y en aura surtout l'inauguration qui va avoir lieu le 11 avril à 17h30. Et on a ce temps fort aussi autour des cueillettes sauvages, donc le 6 avril, donc dimanche prochain. Et puis l'expo va durer jusqu'au 27 avril.
Bon, on va faire la visite ensemble, donc je vais essayer de donner un peu à écouter aux auditeurs. Mais à quoi elle ressemble cette expo? Et d'où elle vient d'ailleurs, parce qu'on l'a dit en intro, mais rappeler un peu le cadre aussi de recherche.
Oui, alors elle vient d'un travail de recherche que j'ai mené au sein de l'INRAE pendant 2 ans sur la thématique de la place des familles gitanes et voyageuses dans l'agriculture. Elle vient d'une rencontre avec la géographe Colline Perrin qui travaille à l'INRAE et qui travaille beaucoup sur l'accès au foncier des populations marginalisées. Et en fait, on a travaillé ensemble tout simplement parce qu'on s'est rencontrés dans un colloque et on a discuté. Et en fait, moi, dans ma thèse, je montre qu'il y a un problème d'accès à la terre, en fait, pour ces familles de gens du voyage. J'ai travaillé, en fait, très longuement sur les gens du voyage, toute ma carrière, je dirais. Et j'ai été pendant 10 ans médiatrice départementale auprès des gens du voyage, aussi dans l'Hérault. Donc j'ai vu, en fait, tous ces empêchements, toutes ces discriminations dans l'accès à la terre. Et du coup, bah, d'ailleurs, on a même un article qui va sortir sur le sujet, enfin voilà, sur ces discriminations un peu systémiques. Donc, et pourquoi on les retrouve plus sur les routes que dans nos territoires, alors qu'en fait, ce sont des familles qui sont ancrées aussi dans certains territoires. Hein. Ici, particulièrement, on a des familles. Hier, on est allé rencontrer les familles du Vigan, qui, j'espère, vont venir. Hein. Vraiment, on les a invitées. Elles nous ont dit qu'elle viendrait également, donc voilà, moi je sais que ça va être de beaux moments en fait qui vont être partagés ici sur le territoire du Vigan. Et l'expo en fait, elle concerne toute l'Occitanie, c'est un projet de recherche qui a été financé par la région Occitanie, donc en fait je suis allée aussi bien dans les Pyrénées-Orientales, j'ai cherché un petit peu une aiguille dans une botte de foin, parce qu'à la base, justement, l'objectif de l'expo c'est un peu de transformer un petit peu les récits et les imaginaires qu'on a sur ces populations. Et au départ, quand je posais la question, est-ce qu'il y a des familles qui travaillent dans l'agriculture, ici, dans le secteur, etc., c'était pas toujours évident. D'ailleurs, quand j'en parle encore aujourd'hui à des gens qui ne connaissent pas, les familles gitanes peuvent travailler dans l'agriculture, c'est pas évident. Alors qu'elles ont énormément été mobilisées comme main-d'œuvre dans la viticulture, même dans le maraîchage, dans les Pyrénées-Orientales. J'ai collecté des témoignages de gens qui travaillent encore aujourd'hui dans le maraîchage. Voilà, donc il y a plein d'exemples à fournir. Et donc la visite, je ferai une visite guidée, en tout cas, normalement c'est prévu, en tout cas le 11 avril, où j'expliciterai vraiment, je parlerai devant chaque panneau. La particularité de ces panneaux, la particularité de cette exposition, c'est vraiment qu'on a travaillé avec les familles et que du coup, on a pu collecter des images, des fonds photographiques des familles elles-mêmes. Bon, ça, c'est vraiment hyper précieux. C'est ça qui fait vraiment la qualité de cette exposition. Et d'autre part, ce sont tous les verbatims, c'est-à-dire les citations, des extraits d'entretien qui sont mentionnés directement dans l'exposition, plutôt que d'avoir un texte qui explicite ce qui se passe. Là, c'est vraiment les familles qui parlent elles-mêmes. Et ça, c'est le propre de l'ethnographie, précisément. Et on a une autre petite particularité dans cette expo, c'est les QR codes qui nous renvoient à des liens audio ou vidéo, et vidéo quoi, où on rencontre directement les personnes. Voilà. Et donc j'ai fait également un web documentaire qui s'appelle Mémoire agricole gitane avec Thierry Brinksmal. On a travaillé depuis plusieurs mois pour rassembler la matière que j'avais collectée dans le cadre de ces enquêtes et produire quelque chose qui restera un petit peu, en tout cas sur le web, et auquel tout le monde pourra avoir accès. Donc ça s'appelle un web documentaire. Et là où on a ces trajectoires, ces trajectoires d'insertion dans l'agriculture et ce que ça a pu donner. Mais il y a aussi des trajectoires, on va dire, plus difficiles, c'est-à-dire des endroits où finalement cette insertion ne s'est pas opérée et qu'on On en parle aussi un petit peu dans l'exposition, mais je le développerai ça un peu plus dans les podcasts que je suis en train de préparer. Voilà.
À suivre. Alors.
Ouais, merci beaucoup en tout cas pour.
Merci, et puis on va aller rejoindre le public en bas qui attend sa visite, je crois.
Cette photo-là est très importante, c'est un peu avec elle qu'on a démarré. Et en fait, on voit Fifi, donc, qui est photographiée sans être mentionnée comme femme gitane, contrairement aux documents administratifs qu'on va trouver là, où là, ces femmes, ces marchandes ambulantes d'ail et de citron sont mentionnées comme gitanes spécifiquement. Mais là, elle apparaît dans un ouvrage sur la ville de Montpellier. Et en dessous, il y a marqué « Tout le monde la connaît, la marchande d'ail et de citron ». Et on est sur la place Jean Jaurès, en plein cœur de la ville de Montpellier. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux de Montpellier Histoire, quelque chose comme ça, Montpellier Patrimoine, etc., cette photo apparaît. Et alors, quand vous allez voir tous les commentaires sous cette photo, vous comprenez que cette femme est très populaire et qu'elle est encore quelque part dans le cœur des Montpelliérains, dans le cœur des familles. Et parce que donc elle se surnommait Fifi, mais il y en avait d'autres comme cette femme également, Polotti. Elles ont toutes des surnoms. Ce sont des femmes gitanes. Donc c'est voilà. Ça, déjà on est dans les années 40 et on va voir que finalement ces familles qui vivent dans la ville de Montpellier de manière sédentaire, elles sont sur les recensements. Elles sont sur les recensements de la ville et en même temps dans le recensement des nomades. Vous voyez, c'est sans que ça semble paradoxal. Et là, on a un courrier, en fait, du commissaire de police qui s'adresse à la préfecture pour expliciter que, en fait, il y a une des vendeuses, donc Maraval Élise, née Marcou. Donc on va avoir des noms de famille qui vont être récurrents dans cette exposition. Qui sont des noms de famille catalogués comme des patronymes, bonjour, des patronymes dits gitans, mais en fait ce sont des patronymes français, mais qui se trouvent gitanisés par des unions. Ce sont souvent des unions mixtes aussi. Et à Montpellier, ces deux noms-là, c'est des histoires que je ne peux pas vous raconter là, mais c'est des histoires de mariage d'hommes avec des femmes gitanes, le plus souvent. Maraval, par exemple, c'est une histoire d'un homme, un Aveyronnais, qui va se marier avec une femme gitane, et ça crée des branches, des scissions un petit peu dans les familles, voilà. Là, on arrive sur l'activité de tonte, qui était une activité vraiment spécifique des gitans catalans. Là, on a donc un personnage qui a été photographié avec tous les attributs de la tonte et le travail du maquignon. Donc, c'est une photographie qui a été prise par Eugène Truta, d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Espinasse à Saint-Cyprien, à côté de Toulouse, en 1895. C'est intéressant cette photo à cette date-là. Pourquoi ? Parce que 1895, c'est l'année du premier recensement des nomades en France. C'est à partir de ce recensement des nomades qu'on va progressivement mettre en place les carnets anthropométriques des nomades. Alors, c'est d'autant plus intéressant que cette photo est valorisante, que vous allez avoir les photos des carnets anthropométriques de nomades, pardon, je cherche, il est là. Vous voyez, là, on est sur une photo criminogène, typiquement. On va perdre, en quelques années, on voit à travers les témoignages photographiques la déperdition du statut social, socio-économique de ces familles, qui va se traduire d'une manière criminogène, parce que ce mode de vie, d'un coup, va devenir suspect. Qu'ici, on a quelqu'un qui est photographié au titre de son activité. Et il est très bien habillé. Voilà, il a une très belle moustache. Voilà. Et ces activités de tonte, donc là, vous voyez les ciseaux qui dépassent, sont vraiment très, très répandues. On a mis juste ici un extrait du recensement, en fait, de Clermont-l'Hérault. Donc, dans le centre-ville, on est rue de Barbès, où nous avons deux tondeurs qui sont d'origine gitane. Monsieur François Rey, qui est tondeur, ici même, vous voyez. Et monsieur Jean Patrac, voilà. Deux personnes dans la même rue, à quelques maisonnées près, exercent exactement la même activité. Et on est en 1911, d'accord ?
En fait, ces activités, c'était des activités qui les amenaient à circuler. Donc là, on a un témoignage de Lynn qui se souvient en fait de son père et de ses oncles, ses beaux-frères, etc., qui menaient cette activité. Donc il me dit « Je me souviens toujours d'un petit village en haut, Gloriane. Il y avait les bergers là-haut. À telle date, il demandait par exemple mon père, ses beaux-frères, les cousins. Ils partaient à 5 ou 6. Donc quand ils arrivaient là-bas, on leur payait la nourriture, la boisson et la journée, tant par bête. Et ils faisaient tout à la main. Mais alors moi, j'ai vu tondre. Ils tondaient la bête sans faire tomber un morceau de laine. C'était comme un tapis, comme un tapis. Ah ouais, des pros de la tonte. Ils faisaient toute la saison de tonte. Ils gagnaient leur vie, hein, mais c'était du travail parce qu'ils avaient les reins pétés, les pauvres. Parce qu'ils la tenaient tout seuls, la brebis. Et alors là, vous avez tout le carnet qui est rempli de cette manière-là. Et on voit toute l'itinérance, en fait, toutes les pérégrinations de ce Jean Espinasse qui va en fait, de petit village en petit village pour tondre les bêtes. Voilà. Et ces activités qui sont ici mentionnées, on a tondeur et chiffonnier. Donc on a également, alors je l'ai mentionné aussi pour faire connaître également le travail qui a été fait à la boutique d'écriture qui est basée dans le quartier Figuerolles à Montpellier, où ils ont édité un livre qui a été fait sur la base d'un récit autobiographique avec Rosette. Donc elle a sorti un ouvrage qui s'appelle, donc Rosette c'est son surnom, c'est Marguerite Meyer, elle a sorti un ouvrage qui s'appelle tout simplement Gitane, qui a été édité par la boutique d'écriture en 1995, et elle témoigne elle aussi, c'est un très bel ouvrage, c'est très poétique en fait, voilà. Donc chaque année, il allait avec ses frères, mon père, tondre les moutons à la montagne. À la fin, quand il avait fini de tondre, la patronne donnait en plus une bouteille à chacun, donc de l'eau de vie. Il allait tondre les chiens chez les gens qu'il connaissait très bien. Et mon oncle, mon père, chacun se faisait couper leurs cheveux. Mon père les coupait à mon oncle et mon oncle les coupait à mon père, chacun son tour. Mon grand-père, lui aussi, tondait les moutons, les chiens, et lui aussi faisait récupérateur. Donc on voit en fait à la fois, on va compléter avec une bouteille d'eau de vie, bien sûr qu'il faut, j'imagine que peut-être parfois, enfin là on a des témoignages par ailleurs, hein, ils étaient aussi hébergés parfois dans ces fermes. En fait le lien était plutôt, enfin voilà, il y avait un besoin, cette main d'œuvre était utile, elle était saisonnière, chaque année il revenait et c'était complètement admis. Et voilà, et on se coupait les cheveux l'un l'autre également. Donc on va continuer sur une partie plus contemporaine du coup.
L'exposition Trajectoire Gitane dans l'agriculture est donc à visiter jusqu'au 27 avril. Vous pourrez retrouver la chercheuse Gaëlle Aloiseau pour une visite commentée lors de son inauguration officielle le 11 avril à 17h30 au musée Sévenol, ou bien ce dimanche 6 avril à 14h30 où vous pourrez rencontrer Cynthia Patrac et Amandine Cellini qui vous invitent à découvrir les savoirs botaniques dont elles sont dépositaires et qu'elles continuent encore de transmettre aujourd'hui. Pour l'adresse, les contacts et les actualités du musée Sévenol, c'est sur musée-sévenol.fr ou sur le site de la mairie du Vigan. Et quant au web documentaire qui est associé à ces recherches et à l'exposition, il sera très prochainement mis en ligne sur le site de l'INRAE. Vous pourrez par ailleurs, en exclusivité, profiter des podcasts qui sont en train d'être réalisés par Gaëlle Aloiseau, puisqu'ils seront diffusés sur Radio Escapade, partenaire de ce beau projet.
Un, dos.
Vous avez pu aussi entendre un morceau de Los Activos et on se quitte en musique et toujours en flamenco avec El Madrileño et le morceau Me Maten. Bonne fin de journée à toutes et à tous.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar. Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar?
Agua.
Vámonos, vámonos.
Me mate, me mate.
en la vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. Y el pibe de la puerta dice que somos muchos.
Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.